Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un roman noir dans tous les sens du terme, politique, religieux, sociétal. Un roman qui dit une époque charnière à la fin des années 80 dans un pays sur le point d'exploser, l'Algérie, sur fond de pénurie économique, de tensions, de frustrations, raconté à travers la mort d'une femme, une chanteuse assassinée sans doute parce qu'elle était trop libre, en tout cas un meurtre qui en creux éclaire tous les non-dits, tous les secrets d'une communauté et tous les non-droits des uns et des autres. Une fiction récompensée par le prix Sherzayed en 2023 et qui vient d'être traduite de l'arabe par Loftinia dans la collection La Série Noire chez Gallimard sous le titre La fin du Sahara. Bonjour Saïd Katibi.
Bonjour Catherine.
C'est votre premier livre traduit en France, mais c'est loin d'être le premier puisque vous êtes déjà l'auteur à 40 ans à peine de plusieurs ouvrages, essais, poésies, romans, sans oublier vos activités de journaliste. En revanche, c'est bien votre premier polar. Il faut dire que le sujet s'y prête, tant par le lieu que l'année. D'ailleurs, pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous dire en quoi la période de septembre-octobre 1988 en Algérie est un moment clé dans l'histoire du pays ?
En fait, tout ce que l'Algérie traverse aujourd'hui comme histoire, tout ce qu'on connaît de l'Algérie aujourd'hui, trouve ou bien possède sa source dans le 5 octobre 1988. Généralement, on célèbre le jour de l'indépendance, le 5 juillet 62. Mais en fait, l'Algérie contemporaine a commencé le 5 octobre 1988. Malheureusement, cette date est souvent oubliée ou passée sous silence. On le connaît très peu, peut-être en France. En Algérie, c'est pareil. Hein. Si on pose la question à la nouvelle génération entre 20 et 30 ans, ils ne savent plus rien de 5 octobre 1988. Ce jour-là, des milliers de gens, de jeunes, vont sortir dans la rue protester contre le parti unique. Et puis, il y aura un drame, il y aura une tragédie, des centaines de morts. Dans le plus jeune, il avait 14 ans. Donc, ils étaient des gosses, des enfants tués dans la rue. Les gens sont sortis protester contre le parti unique, chercher la liberté, liberté d'expression, de vivre. Il y avait plein de problèmes sociaux, économiques, etc. Au lieu de trouver en face quelqu'un qui les écoute, ils ont trouvé en face des fusées et des Kalachnikovs, donc la mort, les balles. Avant que j'aie 23 ans, je ne sais rien de 5 octobre 88. Moi-même, je suis algérien, je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu en Algérie, je connais tous les détails de l'Algérie, mais je ne savais rien parce que personne ne m'en parle. Donc c'était aussi un secret de famille. Donc c'était un secret de l'histoire, c'était un secret de famille. Et c'est ce moment-là qui m'a interpellé, j'ai commencé à réfléchir à ce moment-là. Et depuis le milieu des années, plutôt depuis le début des années 2000, ça commence à revenir dans ma tête, à réfléchir pourquoi le 5 octobre et pourquoi on le cache, pourquoi on ne le sait pas. Donc ça revient avec des années de réflexion que je suis arrivé à écrire ce roman, La fin du Sahara.
Ce roman permet, en amont de ces émeutes, de raconter en effet que tous les ingrédients étaient déjà présents pour cette révolte à venir. Pénurie de nourriture, manque d'eau, manque d'électricité. Donc ce quotidien de précarité, cette tension, cette fournaise qui arrive, on lit tout ça dans votre roman Saïd Katibi, La fin du Sahara. Mais là, il faut préciser aussi que nous sommes au sud de l'Algérie, dans une petite ville à 5 heures de route de la capitale. Pourquoi ce choix ?
Je suis né, j'ai grandi dans le sud. Moi, je pense, je suis un peu à la William Faulkner. Je préfère écrire sur mon territoire. Mon territoire, c'est le sud. Malheureusement, je dis toujours aux gens que les Algériens connaissent la France mieux que les Français connaissent l'Algérie. Les Français croyaient généralement l'Algérie, c'est Alger, c'est la capitale, c'est les grandes villes du nord. Alors non, Il y a notre Algérie, c'est la mienne. Et c'est une Algérie oubliée. Cette Algérie dont je parle de ce roman n'existe pas dans la littérature algérienne, y compris la littérature de langue arabe. Les grands écrivains que j'aime, que j'adore beaucoup, viennent du Nord. Ils écrivent sur le Nord et c'est tout à fait naturel. Moi, je n'avais pas d'image dans mon pays. Bon, dans mon pays, ça veut dire dans le sud, dans ce territoire. Quand ils parlent de Sahara, pour eux, le Sahara, c'est une carte postale. C'est une carte postale, c'est beau, c'est les chameaux, c'est le sable, c'est le soleil. Ils négligent ou bien ils écartent le côté humain de cet espace géographique. Nous n'existons pas. La nature existe, mais nous, nous sommes absents. Ils ne parlent pas, ils ne regardent pas d'ailleurs. Donc, j'avais une sorte de frustration. Moi, mon premier métier, ce n'est pas écrivain, mais c'est lecteur. Je lis beaucoup. Donc, je ne trouve pas l'image ou bien le visage de mon territoire dans la littérature. Donc, je me suis consacré dans tous mes romans, certains qui ne sont pas encore traduits en français, écrire uniquement sur le sud algérien. Comme je dis, j'ai des références des auteurs américains qui ont choisi de rester dans le sud américain aussi. Donc, pourquoi pas qu'il y ait une littérature de sud algérien ?
Évidemment. Donc voilà, on a posé le contexte historique, géographique. Et maintenant, parlons de ce roman, puisque dès le début, on découvre le corps d'une femme qui a été assassinée d'un coup violent sur la tête. C'était une chanteuse qui travaillait à l'hôtel Sahara, qui donne donc son titre à votre roman. Je me demandais dans quelle mesure c'était inspiré d'un fait réel ou pas, et je vous explique pourquoi, Saïd Katibi, c'est que page 149, voilà ce que vous écrivez, ou en tout cas ce que dit l'un de vos personnages. Je suis convaincue que l'histoire de cette fille, même si on sait peu de choses sur elle, pourrait inspirer un écrivain et le pousser à enquêter sur elle. Fermez les guillemets. Est-ce que, en effet, l'écrivain que vous êtes a été inspiré par une histoire qui s'est réellement passée?
Tout à fait. Je suis né, j'ai grandi dans une petite ville du sud algérien. Il y a uniquement un seul hôtel, c'est l'hôtel de Sahara. Pour ceux qui ne connaissent pas cet hôtel, peut-être vous connaissez la célèbre photo de Karl Marx avec une barbe rasée. Il a une seule photo avec une barbe rasée, il a rasé sa barbe là-bas. André Gide, Isabelle Eberhard, les grands écrivains français, et Guy de Maupassant, ils étaient tous dans cet hôtel-là. Malheureusement, des années après l'indépendance, cet hôtel a été fermé après aussi un assassinat. Donc, les gens entendaient des échos parce qu'il y avait un hôtel, une boîte de nuit à l'intérieur, c'était très joli. Et c'est malheureux. Pourquoi je dis c'est malheureux? Parce que cet hôtel, ces boîtes de nuit, tout ça, en face, jusqu'à maintenant, on peut le voir, on peut aller dans cette ville, on trouve l'hôtel qui est encore fermé. En face, il y avait une mosquée. Donc ici, l'hôtel, les gens en train de faire la fête. Et l'autre, il n'y a aucun problème, c'était une tolérance absolue de l'Algérie. Donc il y avait un meurtre, mais tu sais, quand tu es fermé en Algérie, on n'a pas accès à des archives, on n'a pas accès à la parole aussi. Donc je pars d'un fait réel, le meurtre d'une jeune chanteuse qui travaille dans l'hôtel Sahara qui existe effectivement. Et j'imagine sa vie. À partir de ce moment-là, donc j'ai construit le roman à partir d'un fait réel, ouais, qui s'est passé en 1988, comme c'était un signe annonciateur que quelque chose va arriver plus tard. Donc j'ai dit, tiens, cette fille m'intéresse. Cette fille, cette femme, son destin m'intéresse. Je suis toujours intéressé par les femmes, parce que j'étais toujours aidé par les femmes. Donc à partir de ce fait divers, si vous voulez, je voulais écrire toute une histoire d'un pays parce que le roman commence par la découverte du corps d'une jeune chanteuse et le roman se termine par un autre corps, cette fois celui d'un pays. Donc je commence par l'assassinat d'une fille et on découvre à la fin, il y a tout un pays qui a été assassiné en 1988.
Effectivement, c'est une métaphore d'une certaine façon. Et je me disais, Saïd Katibi, cette victime qui s'appelle ici Zakia, je ne sais pas si c'était son vrai nom dans la réalité, je me demandais en effet ce qu'elle incarnait. Est-ce que c'est aussi le fait d'être une femme libre dans un pays et à une époque très rigoriste?
Quand j'ai commencé à vérifier, je trouve qu'il y a une ressemblance entre cette fille, Zakia, et Dalida. Donc c'est pourquoi je cite beaucoup Dalida. Donc à partir de cette fiction, donc voilà le rôle de la fiction maintenant, j'essaye de construire une vie, d'imaginer une vie d'une jeune fille algérienne des années 80, les années où l'islamisme commence, la violence à peine commence, et on ne savait pas qu'est-ce que ça va arriver plus tard. Mais il y avait beaucoup de pression sur les femmes. Et quand il y a l'islamisme, bien l'intégrisme, d'ailleurs l'intégrisme, il a deux ennemis. la femme et la liberté. Donc, la première victime dans une société intégriste, c'est la femme.
D'où le fait que ce soit à la fois le personnage principal, bien qu'elle elle n'est plus là, mais c'est grâce à elle qu'on comprend, et grâce aux regards qui ont été posés sur elle, et tout ce que vont dire les témoins sur elle, qu'on comprend en effet ce qu'elle a été, ce qu'elle incarne et ce qu'était la société. Alors, on va continuer avec vous, Saïd Katibi, de feuilleter la fin du Sahara, bien entendu, puisque, comme je viens de l'évoquer, c'est une dizaine de personnages que vous mettez en place, et chacun raconte un peu sa version de l'histoire. Ça va du patron de l'hôtel Sahara au fiancé de la victime, en passant par le commissaire, une avocate, également le réceptionniste de l'hôtel, voire un patron de boutique de location de films qui a un rôle important. Peut-être restons encore une seconde sur cette mise en scène, cette mise en narration. Que disent toutes ces personnes pour vous ? Que la vérité est complexe, en fait, et que chacun a une pièce du puzzle, et que si on entend toutes les voix, on peut avoir une idée plus claire de la situation ?
Peut-être je vais vous surprendre, parce qu'à la base, le premier brouillon, bien le premier manuscrit, je l'ai écrit avec un seul personnage, une seule voix. Il y a un seul personnage qui raconte l'histoire. Et à la fin, je me suis posé la question. Là, je parle d'un moment historique très important. Ce n'est pas que l'histoire de l'Algérie, mais toute l'histoire des anciens pays socialistes. Cette époque-là, les gens avaient besoin de parler, avaient besoin des libertés d'expression. Si je raconte le roman avec un seul personnage, un seul narrateur, ça veut dire que j'ai privé les autres de parler. En Algérie, dans les années 80, entre manger ou bien parler, les gens vont choisir parler. Parce qu'on avait vraiment besoin de parler. Donc, je suis allé faire un choix polyphonique. Et c'est très difficile. Moi, j'aurais aimé écrire avec un seul narrateur. Parce que roman polyphonique, ça prend vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Mais il fallait le faire parce que je voulais rendre hommage aux victimes. Moi, je suis de côté des victimes. Les victimes du 5 octobre 88, ils avaient besoin de parler. Moi, je suis de côté des morts. Des morts dans le sens, c'est pas que je glorifie les morts, mais ceux qui ont été victimes pour la liberté le 5 octobre 88. Donc je voulais que leur mémoire soit vivante. Donc le choix d'un roman polyphonique, parce que ça correspond à l'esprit de l'époque. Si j'ai écrit ce roman avec un seul narrateur, ça veut dire que je rentre dans le même jeu de côté dominant. Donc j'ai choisi au cours de route la polyphonie par respect à ceux qui sont morts pour que moi je puisse vivre. Et pour que je puisse écrire.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Et comme vous le disiez très bien, Saïd Katibi, Dalida est beaucoup présente dans ce roman, à travers aussi une chanson qui est citée à plusieurs reprises, Salma et Asalama. Est-ce que vous voulez qu'on écoute cette chanson ?
J'aime bien.
Et dans quelle version ? Alors, puisque Dalida a fait une version française.
Arabe et italienne.
Alors, qu'est-ce que vous voulez entendre comme version ?
Arabe.
Alors on écoute Dalida dans la version arabe de Salma et Asalama.
Salma ya salama, rohna wgina bis salama.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Saïd Katibi à l'occasion de la traduction en français de son roman La fin du Sahara chez Gallimard à la série noire qui d'ailleurs fête ses 80 ans. C'est votre premier polar, on l'a dit. Est-ce que vous rêviez d'être publié dans cette célèbre collection ?
C'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. Je suis très heureux, très reconnaissant. Je m'en souviens, quand j'étais enfant, comme l'État, bon, à l'époque, hein, n'arrivait pas à servir aux besoins des gens, ça a permis à la naissance d'un phénomène qui sort des marchés informels. Donc, il y avait beaucoup des expatriés algériens qui vivaient en France et qui rentraient pendant les vacances. Ils ramènent toutes sortes de produits avec eux. Et dans ce marché, c'est marrant parce qu'on trouve, par exemple, des parfums de Chanel, etc., et quelques exemplaires de la série noire.
Donc vous lisiez ça quand vous étiez jeune ?
Et je n'ai jamais acheté un polar à l'époque de la librairie, parce qu'il n'y avait pas de librairie, mais dans le marché. Donc je trouve dans le marché, à côté des pièces détachées, des bagnoles, à côté des parfums, à côté des vêtements, dans le marché, il n'y avait pas un prix fixe. Ça veut dire qu'on négociait le prix. Et comme il y avait peu de gens qui lisent, donc le prix était raisonnable pour moi en tant qu'un gosse. Je commence à collectionner les livres et à commencer à lire. Et pour moi, à l'époque, trouver un livre, c'est comme trouver l'amour. Parce que c'était quelque chose de très, très rare, très précieux. Quand je raconte ça pour les Français, peut-être que c'est difficile à comprendre. Mais à cette époque, pour moi, un livre, c'est vraiment c'est de l'amour. Quand je vois aujourd'hui des gens qui ont des bibliothèques chez eux, qui disent qu'ils n'ont pas le temps de lire, moi...
C'est d'autant plus émouvant ce que vous nous dites, Saïd Katibi, c'est que c'était hier. Vous êtes si jeune, vous êtes né en 1984. Donc là, ce dont vous nous parlez, c'est quoi ? C'est des années 90-2000 ?
Je crois le moteur de la lecture, bien de l'écriture, c'est l'ennui. Il faut s'ennuyer pour écrire. Et quand on vit, moi, donc j'ai passé mon enfance dans les années 90. À l'époque, le soir, on ne sait pas si on va se réveiller. C'était la guerre civile. Donc l'échappatoire, c'était la lecture. C'est grâce aux Français, grâce à des auteurs français que j'ai aimé les livres, que j'ai commencé à écrire. J'ai lu en français, j'écris en arabe.
On va revenir sur ce sujet dans quelques instants. Mais alors, de fait, qu'est-ce qui vous décide, Saïd Katibi, de vous lancer dans le polar alors que, comme je l'ai dit précédemment, vous avez publié d'autres livres et pas du tout dans ce genre ?
Ce que je peux dire, quoi qu'on écrit sur l'Algérie, la violence ressort. Parce que nous avions une histoire violente. Je ne parle pas uniquement de passé, mais aussi dans le temps contemporain. Donc, moi, je suis concerné par des questions de justice et d'injustice dans une société humaine, dans l'histoire contemporaine, dans mon pays, etc. Mes romans précédents, qui ne sont pas encore traduits, il y a beaucoup de violence. Peut-être que je n'avais pas l'intention d'un polar, mais il se retrouve quand on écrit sur l'Algérie, c'est du polar, c'est du noir.
Surtout qu'ici aussi, un des thèmes les plus importants, c'est les violences faites aux femmes. Et on voit bien ici, à travers tous vos personnages, non seulement la victime, bien entendu, mais les autres, qu'elles sont quand même accablées. Hein. Violence familiale, séquestration, mariage forcé, polygamie, sexisme, meurtre clanique. Ouais. C'est compliqué, hein ?
Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier ennemi de l'intégrisme, c'est la femme et la liberté. L'Algérie aurait pu avoir un destin meilleur, aurait pu avoir un futur meilleur si elle a respecté la femme. Je pense que le roman commence, la fin du Sahara commence par l'assassinat d'une femme. Je pense que quand on tue une femme, on tue un pays entier. Et c'est le cas de l'Algérie. En 1984, ils vont voter une loi qui s'appelle le Code de la famille. Nous sommes dans un parlement avec 242 députés. Et dans la salle, il y a uniquement 3 femmes présentes. Comment pouvoir voter une loi contre les femmes en l'absence des femmes ? Et c'est marrant parce qu'ils ont voté cette loi, il était encore, je crois, c'était le mois de Ramadan. Donc les gens étaient occupés pour faire d'autres choses. Donc l'Algérie est grande comme territoire. Il y avait des gens de l'intérieur du pays qui ne savaient pas qu'il y avait une loi, une nouvelle loi sur les femmes. Qu'est-ce que consiste cette loi? Que la femme, elle a besoin de tutelle pour se marier. C'est difficile de se séparer de conjoint. Si elle est divorcée, elle doit quitter la maison. Plein de choses. Cette loi... Il y a eu quelques rectifications il y a quelques années, mais ce n'est pas encore suffisante. Arrange les islamistes, arrange les intégristes, bien sûr, parce que pour eux, leur malheur, ce n'est pas la femme, mais de voir la femme dans l'espace public.
La fin du Sahara, c'est un roman féministe ?
Moi-même, je suis féministe. Parfois, c'est étonnant de dire qu'il y a un homme féministe, mais moi, j'étais sauvé par des femmes. Je dois rendre hommage aux femmes de toute ma vie. Il y avait des femmes à côté de moi qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé.
D'ailleurs, vous dédiez ce roman à l'écrivaine Taos Amrouche.
Oui.
De la même façon aussi que vous rendez hommage à certains de vos aînés, comme Assia Djebar, par exemple. Cela dit, aussi attaché êtes-vous à votre pays, Saïd Khatibi, vous ne vivez plus en Algérie, mais en Europe de l'Est. Pourquoi ?
Je vis toujours en Algérie. On va y venir. Je travaille en Slovénie. D'ailleurs, moi, je viens d'Algérie maintenant. Mon métier, c'est journaliste. Moi, je ne sais pas faire autre chose. J'aurais pu être de faire un autre métier parce que le journalisme en Algérie, ça devient vraiment compliqué. Moi, je ne veux pas être chaque fois convoqué pour 10 articles de presse. Donc, je cherchais un autre endroit pour pouvoir pratiquer ma passion. Il se trouve que mes auteurs préférés, ils étaient tous des journalistes. Donc, je pratique ce métier par amour. En Algérie, on n'a pas l'atmosphère qui nous permet de progresser encore dans le journalisme. J'espère que demain, les choses vont changer. Je vais revenir travailler dans mon pays.
C'est intéressant aussi ce que vous dites, parce que par exemple, il y a un de vos personnages qui dit « À part moi, personne n'en a rien à faire de la culture ». Je me demandais, vous qui êtes aussi un journaliste culturel, je me demandais, est-ce que c'est aussi parce qu'aujourd'hui, la question de la culture était compliquée en Algérie à traiter, que vous n'y viviez pas forcément ?
C'est ça le plus étonnant, parce que les gens ils pensent que les journalistes poursuivis ou bien emprisonnés sont des journalistes politiques. Moi, je trouve la culture, c'est l'art suprême de la politique. La culture est supérieure que la politique. Et quand je parle de la culture, il y a des questions de l'histoire, de l'identité, par exemple, qui gênent. En Algérie, par exemple, on n'a pas réglé nos comptes avec l'histoire, avec le passé, avec les questions identitaires. Donc, quand je parle d'un sujet qui concerne les identités, qui concerne l'histoire, je reçois plus du harcèlement, peut-être, qu'un quelqu'un qui écrit dans la politique. Parce que lui, il écrit dans l'information, n'est pas dans le commentaire, n'est pas dans l'opinion. Moi, je suis dans l'opinion. Donc, je donne mon opinion et j'assume. Et j'assume mon droit à l'erreur aussi. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Non, je défends mon droit de faire des erreurs. Parce qu'à travers les erreurs, on peut arriver à la vérité. Donc aujourd'hui, journaliste culturel comme journaliste politique, c'est pareil. Ce qu'il gêne, ce n'est pas le journaliste lui-même, mais les questions qu'il pose. Ça veut dire que ce qu'il gêne, c'est l'imaginaire. Il veut qu'on ait tous le même imaginaire, la même réflexion, que la réflexion dominante. Donc que tu sois culturel ou politique, il y a des pressions. Donc il faut aller voir ailleurs. Si les choses changent demain, je serai prêt de rentrer et travailler dans mon pays.
Donc là, vous nous dites, Saïd Khatibi, que la culture, c'est un sujet brûlant en Algérie.
Exactement.
C'est aussi peut-être ce qui explique la façon dont sont traités actuellement les écrivains algériens comme Kamel Daoud ou comme Boualem Sansal, qui est emprisonné depuis novembre dernier.
Je suis triste, oui, par rapport à ça, parce que à quoi ça sert d'emprisonner un écrivain ? Un écrivain en prison, moi, je me sens moi-même en prison. Un écrivain poursuivi par un mandat d'arrêt, je me sens moi-même poursuivi par un mandat d'arrêt. Parce que ça me concerne. Je suis contre toute forme d'harcèlement, bien de pression, bien de priver quelqu'un de sa liberté. Je suis contre de priver un écrivain de sa liberté, de son droit d'écrire. Et l'Algérie, c'est un grand pays, c'est un pays d'histoire, c'est un pays de littérature, c'est le pays de Saint-Augustin, c'est le pays d'Apulée, c'est le pays des grands écrivains aussi. Donc, ceux ou bien celles qui ont gardé la mémoire de l'Algérie, celles et ceux, grâce à eux, grâce à elles, que nous connaissons le passé de l'Algérie, c'est les écrivains. Sans les écrivains, un pays n'a pas de mémoire. Quand on prive un écrivain de sa liberté, Ça veut dire on prive un pays de sa mémoire.
Est-ce que vous pensez que c'est lié aussi au fait que ce soit deux écrivains, Kamel Daoud et Boualem Sansal, qui écrivent en français ?
En partie, oui. Dans le passé, on croyait qu'il y a un problème avec la langue française, avec les écrivains de langue française. Mais depuis quelque temps, moi-même, je suis écrivain de langue arabe. C'est la langue officielle du pays, c'est la langue constitutionnelle. Et moi-même, je subis plein de pressions, c'est pareil.
Même en langue arabe ?
Oui, et encore pire, parce que pour eux, celui qui écrit en français, tiens, il est protégé par la France, les Français les entendent. Moi, j'écris en arabe. Les Français ne me comprennent pas et les autres me font pression. Donc, je suis au plein milieu. Donc, je n'ai pas protection ni de l'un, ni d'une part, ni de l'autre. Aujourd'hui, il y a une certaine tendance en Algérie, c'est une tendance un peu de réviser un peu l'histoire. Par exemple, si tu écris quelque chose, une opinion qui va à l'opposé des opinions dominantes, donc toi, tu es un traître. Donc, il faut que tu suives la caravane. Si tu sors, si tu donnes une opinion en dehors de contexte, si tu réfléchis, si tu pratiques ton droit à ne pas penser comme les autres, donc tu es maudit. L'Algérie aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème avec la France, un problème diplomatique, celui qui paye le prix, c'est la langue. La langue française. Moi-même, je suis en train d'écrire une nouvelle qui se passe en Algérie, dont le personnage principal, c'est la langue française. La langue française devient un personnage. On parle beaucoup.
Et vous écrivez ce roman en arabe ?
En arabe.
Sur la langue française.
Pourquoi ? On parle beaucoup de martyrs en Algérie. Mais il y a un martyr dont on ne parle pas, c'est la langue française.
Qu'est-ce que ça va changer pour vous d'être traduit en français, Saïd Khatibi ?
De rejoindre mes ancêtres d'abord. Les écrivains que j'adore, comme j'ai dit, j'y lis en français, j'écris en arabe. Je suis très heureux. Je crois aussi, en tant qu'un écrivain arabe, que je souhaite porter un dialogue de la littérature arabe avec la France, avec l'Europe, avec le monde entier. Je pense que la France et le monde arabe puissent dialoguer encore, qu'il y ait plus d'ouverture, qu'il y ait plus de portes ouvertes, parce que géographiquement, nous sommes des voisins. Et je suis heureux que le roman traduit, j'espère que d'autres romans seront traduits et qu'on puisse établir un dialogue efficace entre la France et le monde arabe, mais dans le contexte littéraire.
Merci beaucoup Saïd Khatibi. Et on en parlait à l'instant avec vous. Je dédie, comme je l'ai fait régulièrement ces dernières semaines, cette émission à Boualem Sansal, qui vient d'être couronnée à Prague par le prix Irgi Tainer pour la liberté de la parole dans le cadre du Salon international du livre. Je dédie aussi cette émission à Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont détenus en Iran depuis mai 2022. Merci encore Saïd Khatibi. La fin du Sahara, qui a été lauréat du prix Cher Zayed en 2023, paraît dans une traduction de l'arabe par Lofti Nia, dans la collection Série Noire chez Gallimard.
Merci Catherine.
Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.